Écho des colonies, Jocelyne Moussaou.
Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer sur l'actualité économique du pays et même en dehors de nos frontières. L'équipe de Écho d'économie est là pour vous donner la température économique du pays et c'est Berry Franklin Luciaka qui nous fournit les nouvelles.
L'ONG allemande AAA a remis aux autorités congolaises la route Bunia-Mahagi. Nous en parlons avec Isaac Remoyope dans deux minutes. Et puis le ministère du plomb a réceptionné une quantité importante de farine de maïs dont du gouvernement japonais à la RDC dans le cadre du fonds de contrepartie. Est-ce que c'est le maïs qui manque à la RDC? Daniel Tambinzoni répondra à cette question dans la seconde partie de cette émission.
La seconde partie de cette émission reçoit également Jeannine Mabunda, ministre du portefeuille, qui nous dresse déjà un bref bilan annuel des entreprises de son secteur. D'abord, un tour économique du pays. Berry, le gouvernement de la ville, province de Kinshasa, secoué par des cas de démission.
Le lot part du secrétaire exécutif du gouvernement jusqu'au receveur des recettes de la DGRK, en passant par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de la ville de Kinshasa. Officiellement, toutes ces démissions sont d'ordre personnel, mais on sait qu'à la DGRK, par exemple, les agents réclamaient 5 à 6 mois d'arriéré de salaire, et nous apprenons que ces hauts cadres du gouvernement provincial réclament 3 mois d'arriéré de salaire, et jusque-là, aucune réaction du gouvernement provincial.
À peine commencé, le recouvrement forcé de la vignette est suspendu à Kisangani.
C'est la direction des recettes de la province orientale qui a pris cette décision aujourd'hui. Suspendue jusqu'au samedi, la DRTO voudrait intensifier la sensibilisation des propriétaires des engins roulants avant de reprendre cette opération le lundi prochain.
Et sur le marché de Kisangani, les prix de certaines denrées alimentaires en provenance de l'Est ont baissé aujourd'hui.
C'est une baisse relative. Par exemple, un gobelet de haricots de 450 francs vendu après écroulement du pont à 800 francs revient aujourd'hui à 650 francs. C'est le résultat de la sensibilisation entamée par la CEC locale auprès de ses membres pour maintenir les anciens prix sur les marchés. Selon Raymond Mokeli, président de la CEC Kisangani, la rupture des stocks n'est pas à craindre car la ville est suffisamment approvisionnée. En outre, affirme-t-il, tous les moyens sont mis en œuvre pour la réhabilitation du pont Ekoulou avant la fin de cette année. Rappelons que beaucoup de produits alimentaires en provenance de l'Est ont augmenté de prix tout récemment au lendemain de l'écroulement du pont Ekoulou il y a de cela une semaine.
Environ 1000 mètres cubes de bois scié de la forêt du district de Lituri ont été exportés au mois de novembre dernier en Ouganda.
C'est en tout cas le bilan de ces exportations révélées hier par le ministre de l'Environnement et des Affaires foncières de la province orientale en séjour à Bunia. Cette exportation a permis à l'État de réaliser en un mois plus de 5 000 $ américains, montant qui dépasse les recettes déclarées au guichet unique du poste douanier de Kasindi dans la province du Nord Kivu en 2008, par où est passée la marchandise. Notons que cette performance est le résultat de l'accord d'harmonisation des modalités de perception des taxes sur le bois exporté conclu en octobre dernier à Beni entre la province orientale et celle du Nord Kivu.
En même temps, le ministre provincial crée aujourd'hui une commission de contrôle de tonnage de véhicules transportant les bois sciés.
Cette initiative vise à protéger les ponts pendant le passage des véhicules contenant les bois sciés. Notons que les ponts Ekoulou et Ituri se sont effondrés sous le poids des véhicules transportant les bois au-delà des capacités de ces ouvrages d'intérêt public, engendrant un sérieux manque à gagner pour les opérateurs économiques.
La banque privée Robank a ouvert ses portes à Kisangani aujourd'hui.
Son directeur l'agence Joseph Irimutumbali parle d'un essai de matériel à utiliser ainsi que des agents retenus pour prester dans cette agence. Selon ceci, en attendant l'inauguration officielle qui pourrait intervenir dans les mois qui suivent. À peine ouvert, 3 clients ont ouvert leur compte. Il faut rappeler que Robank est une filiale du groupe Beltexco dont les initiateurs sont des petits-fils des anciens Indiens qui avaient vécu dans la ville de Kisangani.
La nouvelle économique au bout du fil.
Le coup de fil de ce soir se dirige vers l'Ituri où il y a eu ouverture officielle aujourd'hui du tronçon routier Iga Barrière Nyoka sur la nationale numéro 4 d'une longueur d'environ 100 km. Les travaux de réhabilitation de cet axe routier dont le coût est d'environ 4 millions de dollars américains ont été réalisés par l'ONG internationale Agro Action Allemande. Isaac Remoyope, vous nous en parlez. Quelle est l'importance de la réhabilitation de cet ouvrage pour la population?
Le chef de mission de cette ONG en Ituri a déclaré que cette action va permettre l'acheminement des produits vivriers dont les haricots, les cossettes de manioc, les maïs, les pommes de terre et les choux des villages vers les marchés urbains. Les vivres sont cultivés à Mahagi et à Njougou, considérés comme les greniers du district d'Ituri. Et grâce à cette action, les produits de première nécessité seront également acheminés des centres urbains dans les zones de desserte agricole. Selon la même source, plus de 500 000 dollars américains ont été aussi injectés dans la communauté par l'emploi de 13 000 habitants des Évrés situés le long de ces tronçons routiers dans ces travaux.
Et comment les paysans acheminaient leurs produits agricoles au marché avant l'exécution de ces travaux?
Il faut dire que les usagers de cette route et les autorités locales ont affirmé que le véhicule passait 4 jours ou une semaine sur ce tronçon et pendant les saisons des pluies, cette route était impraticable et certains accès routiers étaient devenus même inaccessibles. Et ce qui avait comme conséquence la rareté et la hausse des prix de certaines denrées alimentaires dans les centres urbains, notamment à Bounia et à Mongol ou à 80 km au nord de Bounia.
Merci beaucoup Isaac Remoyopé. Bonne soirée chez vous.
Merci.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
Berry, l'or continue de voler de record en record.
L'once a atteint aujourd'hui un nouveau record sur le marché londonien des métaux précieux, s'élevant au-dessus de 1215 dollars l'once. Hier, l'once s'est vendue à plus de 1200 dollars l'once. Cet envolé est favorisé par la dépréciation du dollar, mais également les bénéfices d'une série d'achats des réserves d'or par plusieurs banques centrales asiatiques.
Merci beaucoup, Berry Franklin Luchaka, pour cette information internationale. Voici la deuxième partie de Éco d'Éco.
Éco d'économie, le dossier.
Le ministère du Plomb a réceptionné plus de 10 000 tonnes de farine de maïs, dont du gouvernement japonais. Ces dons sont consécutifs à l'accord signé entre les deux États en avril dernier. Ils représentent plus de 6 millions de dollars américains. À qui est destinée cette aide alimentaire? Comment se le procurer? Nous en parlons avec Daniel Tambizoni dans ce dossier. Daniel, quelle est la vraie quantité de ce don?
C'est au total, Jocelyne, 13 130 tonnes de farine de maïs conditionnées dans 525 200 sacs de 25 kg. C'est du maïs acheté en Afrique du Sud et toute la quantité est déjà arrivée à Kinshasa et logée dans les entrepôts de la Foire internationale de Kinshasa, la FIKIN.
C'est un don, ce qui veut dire que la population congolaise le procurera aussi gratuitement?
Non, Jocelyne, c'est un don destiné à être vendu et les recettes réalisées vont constituer un fonds de contrepartie qui servira à la suite à financer les projets socio-économiques de développement en RDC. Et sachez-le que la vente avait déjà commencé depuis lundi.
Comment se le procurer? À quel prix?
Le sac de 25 kg se vend à 10 dollars en prix de gros aux opérateurs économiques qui avaient déjà souscrit à l'achat auprès du ministère du Plan chargé de l'exécution de cet accord RDC-Japon dans le cadre de fonds de contrepartie. Ces opérateurs économiques vont à leur tour revendre à la population au prix de 13 dollars le sac de 25 kg sur le marché. Selon les informations nous livrées par M. Dieudonné Boinga, qui est directeur du secrétariat des fonds de contrepartie, le prix est fixé en commun accord avec le ministère du Commerce et se trouve être le meilleur par rapport à d'autres prix actuellement appliqués sur le marché de Kinshasa. Et c'est le ministère du Commerce qui est chargé de faire le suivi de la stricte application de ce prix sur le marché. M. Boinga a aussi signifié qu'il y a sur le marché du maïs de même qualité, mais celle-là proviendrait de l'Argentine et le sac de 25 kg se vend à 25 dollars, tandis que le riz local se vend à 16 dollars le sac de 25 kg.
Mais Daniel, ce n'est pas le maïs qui manque en RDC. Comment le Japon a préféré en acheter en Afrique du Sud pendant qu'il y en a qui pourrit dans les greniers de l'arrière-pays?
À cette question, Jocelyne, M. Boinga du Fonds de contrepartie nous a dit que c'est un don venant d'un pays partenaire qui a décidé dans toute sa liberté de l'acheter en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout, a-t-il dit. Une autre quantité un peu similaire et ajoutée à cela d'autres produits comme le ciment est attendue début 2010.
Un de nos auditeurs nous pose la question de savoir est-ce que le Congolais a seulement besoin de maïs?
Nous gardons sa question, Jocelyne, et la posons à qui de droit, car il ne nous revient pas de répondre à la place du gouvernement, moins encore ou à la place du ministère du Plan qui exerce exécute cet accord RDC Japon.
Et donc, qu'ils suivent notre émission, aura sûrement la réponse à sa question dans nos prochaines émissions. Merci Daniel Tambizoni.
Merci Jocelyne.
L'entretien de ce soir.
Et nous recevons ce soir Jeannine Mabunda, ministre du portefeuille. Madame la ministre, vous avez accompagné le président de la République dans sa tournée, notamment à Mbujimayi et à Guémena. Qu'en est-il aujourd'hui de ses promesses faites à l'AMIBA, à Mbujimayi? Et est-ce que aujourd'hui les agents de l'AMIBA ont encore besoin de promesses? Est-ce que le premier ministre est même passé? Il a fait aussi des promesses fermes. Ces agents ont besoin du concret que des promesses.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point de vue-là. Nous avons fait depuis l'année passée, d'abord en accord avec la direction de l'AMIBA, un plan de survie. Ce plan de survie a été évalué à 20 millions de dollars. Quand on identifie les besoins d'une entreprise, ça doit quand même être contre-vérifié. Nous sommes en train de préparer notre budget, ça a été inscrit, le budget commence le 1er janvier 2010, donc je crois qu'il faut respecter les procédures budgétaires et commencer l'année 2010 avec ce plan anti-crise.
Nous sommes à la fin de l'année, comme vous le dites, quel bilan faites-vous des entreprises publiques?
Bon, je pense qu'à la fin de l'année, il faut jamais être trop triomphaliste. D'abord parce que sinon les mandataires redeviendraient peut-être paresseux, mais aussi parce que je crois qu'il ne faut pas tromper la population. Il y a eu des bonnes surprises et puis il y a eu des difficultés. Les difficultés, c'est les mouvements sociaux, les cessations de travail, les difficultés de paiement de salaire à la SNCC et à l'AMIBA. Et ça, c'est comme des enfants qui ont un peu plus de mal à se développer et un parent doit être plus attentif pour cela. Et donc, notre attention cette année a été concentrée sur la recherche de solutions plus pérennes pour ces deux entreprises qui ont été fragilisées. Et nous allons poursuivre cette stratégie de sauvetage pour ces deux entreprises-là en 2010. D'autres bonnes surprises, c'est effectivement les efforts qui ont été faits, par exemple, par la régie des eaux. La bonne surprise aussi, je pense que c'est la régie de la voie aérienne. Une troisième bonne surprise, je dirais, quoi qu'elle demande à se confirmer, parce qu'à mon avis, il y a encore un peu de discipline à mettre là-bas, c'est les efforts qui sont faits par l'ONATRA pour reprendre le trafic fluvial envers toute la République démocratique du Congo. Il y a quand même une ambition pour ce secteur du portefeuille. Il y a une discipline, une rigueur et une tolérance zéro, qui n'est pas un slogan chez moi, qui doit être applicable aux gestionnaires. Ça peut déplaire aux mandataires, mais c'est la règle du jeu. On ne peut pas être à la tête des entreprises et s'amuser avec le capital que les Congolais nous ont donné.
Vous venez de dire qu'il faut une attention particulière, par exemple pour la SNCC et la MIBA. Nous savons déjà qu'il y a 2000 agents, 2000 retraités et qui vont partir. Mais est-ce que cela suffit aussi pour réveiller un peu la SNCC? Et puis les cas LAC aussi, pour être plus brève, les lignes aériennes congolaises qui ont aussi suspendu les vols à l'intérieur du pays. Et qu'en est-il de l'avion à qui parlait LAC? On n'en parle plus.
Je pense que vous posez le problème qui est fondamental et je crois que vous êtes un peu le reflet de la population. La population, ce qu'elle veut des entreprises publiques, c'est un meilleur service, une meilleure qualité dans la sécurité. La réponse, nous l'avons donnée au niveau du gouvernement. Le mot d'ordre ou la feuille de route que nous avons donnée aux mandataires, c'est la réforme des entreprises publiques pour redynamiser les entreprises. Vous avez parlé tour à tour de SNCC LAC comme exemple. Je crois que donc vous avez parlé de notre politique de transport. Quelle est-elle? Mon collègue a présenté une note de stratégie sectorielle pour le domaine du transport en République démocratique du Congo. Et nous-mêmes, au niveau des entreprises du portefeuille, nous l'accompagnons. Avant de trouver des réponses, il fallait connaître la maladie. Et c'est toute la période de travail de 2008 qu'a fait la SNCC. La maladie, c'est vous n'avez pas de locomotive, vous n'avez pas de wagon, vos rails sont très abîmés. Et donc tout ça, ça vous donne une performance qui est négative et une insatisfaction de la clientèle. Nous savons que pour réhabiliter la SNCC, il faudrait, sur les 3-4 ans qui viennent, environ 500 millions de dollars. Le gouvernement, en accord avec ses partenaires, a identifié 160 millions de dollars pour la SNCC, où la priorité va être donnée à la relance de cette entreprise, et environ 200 millions de dollars dans le cadre du programme chinois. En ce qui concerne l'APP, je pense que l'APP connaissent les mêmes problèmes comme toutes les entreprises de transport. Vous savez, les entreprises de transport, pour que ça fonctionne, il faut investir lourdement dans l'équipement et dans les infrastructures. Mais on ne peut pas faire tout en même temps. La priorité a été donnée à l'ONATRA, à la RVA et à la SNCC pour les 3 ans à venir. Ça ne veut pas dire que l'AC est oublié, mais le type de réponse qu'on trouvera pour l'AC sera beaucoup plus modeste, beaucoup plus ponctuel. Mais l'AC a aussi toute une série de partenariats aujourd'hui qu'il exécute avec des compagnies zimbabwéennes, sud-africaines, kenyanes, qui traversent le Congo de part en part. Et c'est là aussi que se trouve une issue à la relance et au rebond de la société LAC.
Janine Mabunda, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Écho d'économie. Vous êtes ministre du portefeuille. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Réécoutez-nous sur www.radiocapi.net.